Je vous invite à prendre les notes, je vous invite à prendre place, puis on va aller ensemble dans un mot de prière. On va commencer. Bonjour. Bonjour, M. Saunier. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Éternel, revoir cette doctrine, Seigneur, sur ton existence, touchait mon cœur. Ça me touchait, ça m'édifiait, Seigneur, de voir ton désir de te faire connaître à nous. Toi qui es infini, infiniment grand, tu nous dépasses. On ne pourra jamais vraiment saisir qui tu es. Et pourtant, Seigneur, comme M. Grudem nous le rappelle, nous pouvons vraiment te connaître. C'est un privilège extraordinaire. Je te prie, Père, de nous aider ce matin à apprécier ces choses. Je te prie de nous aider ce matin à comprendre ces choses, Seigneur. Viens nous faire grandir, que nous ne demeurions pas des enfants dans la foi toute notre vie, Seigneur, mais que nous saisissions ces vérités et que nous soyons en mesure de les communiquer, faire des disciples, Seigneur. Père, je te prie, comme le psalmiste dans le psaume 119, garde ma bouche de s'éloigner de la vérité, Seigneur. Ne retire pas de ma bouche la vérité, parce que tu m'as donné une grande responsabilité, celle d'enseigner ta parole. C'est en Jésus-Christ que je te prie, Père. Amen. Amen. Alors, on peut prendre les notes, l'existence de Dieu ce matin. On devrait être bon pour couvrir notre matière. J'ai essayé de mettre ça assez bref. La semaine prochaine, on entre dans on va commencer à voir les attributs de Dieu. D'accord? Comme je l'ai mentionné la semaine prochaine, les attributs de Dieu. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, à partir de ce matin, mon cours est bâti essentiellement sur la théologie systématique de Wayne Grudem. D'accord? Alors, je sais que c'est une grosse dépense. Le bouquin coûte 90 $ si vous décidez d'en avoir une copie française, une cinquantaine de dollars en anglais, puis 30 $ environ si vous prenez un format électronique avec Kindle, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment, vraiment bon. Ça vaut la peine. C'est le genre d'outil que vous allez garder dans votre bibliothèque puis que vous allez retourner voir. Personnellement, quand je prépare des prédications, puis que dans mon étude d'un livre, admettons, j'aborde un sujet qui est plus une doctrine, régulièrement, je vais aller voir juste la synthèse que Grudem fait pour, quand je suis en train d'exposer mon texte, ne pas perdre de vue ce que l'ensemble des Écritures disent par rapport à ça. Alors, moi, je m'en sers aussi assez régulièrement. Même si je l'ai lu, j'y retourne. D'accord? Oui. Non, c'est une des beautés du livre de Grudem. Le livre de Grudem n'a pas été écrit pour les universitaires. Ça a été écrit pour les pasteurs, les laymen, ceux qui sont très impliqués dans l'Église. Et puis, il y a des questions de mise en application pratique à la fin de chaque chapitre, avec des versets suggérés à mémoriser. Non. Stéphane, tu l'avais lu au niveau du... Ouais, OK. T'es pas nécessairement toujours à l'aise en anglais. Non, je peux vous dire, c'est écrit, ça coule assez bien. Puis dans la traduction française, ça s'est pas alourdi. J'ai fait le commentaire la semaine dernière que des fois, ça devenait plus lourd. Non, pas vraiment. En fait, on va commencer avec quelque chose qu'ils ont vraiment changé pour le rendre en français. Puis j'ai trouvé qu'ils avaient fait un bon jugement. Fait que pour moi, c'est accessible. Je pense que ça va être accessible pour tous. Alors, ce matin, l'existence de Dieu. Comment savons-nous que Dieu existe? D'ailleurs, c'est une des forces du livre. Chaque fois qu'il commence une nouvelle doctrine, il la présente avec une question. Il résume finalement la question à laquelle on veut répondre. Et celle-là, c'est « Comment savons-nous que Dieu existe? » C'est ça qu'on va voir ce matin. Une partie et est-ce qu'on peut vraiment connaître entièrement Dieu? C'est les deux questions qu'on va adresser ensemble ce matin. Comment savons-nous que Dieu existe? Mais il y a deux éléments principaux qui nous permettent de savoir que Dieu existe. Il y a comment est-ce qu'ils l'ont rendu? cette connaissance innée, cette idée innée de Dieu que tous les hommes possèdent. D'accord? Tous les êtres humains possèdent en eux-mêmes ce sens que Dieu est là. C'est là au plus profond de notre être. Ça, c'est un élément. On va le développer ensemble. Deuxième élément, bien, c'est le témoignage. Les témoignages qu'on trouve à l'égard de l'existence de Dieu dans la nature et puis dans les Saintes Écritures, évidemment, principalement. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on sait que Dieu existe sur la base de ces deux choses-là? Cette idée innée qui est en nous, qui est là, innée, ça veut dire que ça n'a pas été acquis. On l'a depuis toujours en nous-mêmes. Et donc, l'être humain, généralement, pressent, sent, sait qu'il y a un créateur à quelque part qui est là depuis toujours à travers toutes les populations, toutes les ethnies, partout sur la terre. Généralement, c'est le cas. Et donc, il y a cet aspect-là. Puis deuxièmement, les témoignages qui nous sont rendus à l'égard de Dieu dans la nature, dans les Saintes Écritures. On va en parler un petit peu. On va en parler un peu. La question de Diane, c'est comment on explique qu'il y a des athées. C'est une bonne question, on va en parler. C'est ça, puis peut-être juste pour vous donner un exemple, je fais une petite parenthèse, là, mais Grudem parlait de « inner sense ». Et puis, ils ont décidé de le traduire en français par « idée innée ». Ce n'est pas la même chose, mais c'est ça qui est le plus près, qui rend bien « inner sense ». Ce n'est pas juste un sentiment, c'est quelque chose, c'est ça, ce n'est pas un sentiment intérieur seulement de l'existence de Dieu, c'est même la conception de Dieu, comment on pense qu'il y a un créateur qui est là quelque part, et puis on l'a toujours. Tout être humain, généralement, va avoir ça. Et puis, on va expliquer pourquoi ce n'est peut-être pas tout être humain qui reconnaît cette idée-là de Dieu. Alors évidemment, dans Romains 1, 21, si vous êtes à la page 3, qui est la deuxième feuille là, ce matin, vous avez Romains 1, 21, « Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. » Ce que Paul fait dans Romains 1, il dit, bien, tous les êtres humains ont cette idée innée de Dieu. Tous les êtres humains savent, puis là, Paul développe, là, on va voir ensemble un petit peu plus, comment. Mais tous les êtres humains ont cette conscience-là, ce sens-là que Dieu existe, cette idée-là que Dieu existe. Mais déjà, Paul dit, ils ne veulent pas le reconnaître. Ils ne veulent pas l'admettre. Puis évidemment, ben, on voit quand même que c'est là, si je fais un argument à l'extérieur des Écritures, regardez la vaste majorité des êtres humains, à part depuis l'avènement de le développement de l'humanisme, tout ça, je veux dire, tout le monde se crée des dieux. Alors, on part tous de cette idée qu'il y a quelqu'un à quelque part derrière tout ça qui a fait quelque chose. Et puis là, ben, ça donne toutes sortes d'histoires. Fait que tu regardes partout sur la Terre, à travers les différentes religions, les différents systèmes de pensée, que ce soit même les Amérindiens avec l'animisme ou des choses comme ça, qui vont attribuer à la nature cette idée-là de créateur, de divinité, tout ça. Mais c'est là. C'est présent. Puis ça va se traduire de toutes sortes de manières dans différentes religions, tout ça. Mais c'est commun à tous les êtres humains. Ainsi, bien que Paul reconnaisse que ce ne sont pas tous les hommes qui l'admettront, il affirme que tous ont reçu en eux-mêmes la connaissance de Dieu. Les hommes ont reçu en eux-mêmes cette vérité, mais ils ont changé cette vérité concernant Dieu en mensonge. Et c'est ça que Paul fait comme analyse. Paul dit, tous l'ont, plusieurs ont transformé ça, plusieurs ont changé ça. Et c'est comme ça qu'on va expliquer l'athéisme. D'accord? Je fais une parenthèse, puis je vais revenir sur ça un petit peu plus loin. Ce matin, je vous enseigne ce que la parole de Dieu enseigne. D'accord? On n'est pas dans un cours d'apologétique. Et ça, c'est important. Tantôt, on va avancer sur l'existence de Dieu, puis je vais rentrer un petit peu dans cette question-là. L'apologétique, quelqu'un qui sait c'est quoi l'apologétique? La défense de la foi. D'accord? Alors, faire de l'apologétique, c'est trouver des manières de défendre la foi chrétienne. C'est important, c'est fondamental. Vous en faites tous, d'accord? On en fait tous. On est plus ou moins bons, mais on en fait toute la gang, d'accord? Ce matin, je ne fais pas de l'apologétique. Je ne suis pas là pour vous prouver que tous les arguments que j'apporte sont justes. Ça serait dans un cours d'apologétique. Je suis là pour vous enseigner ce que la parole de Dieu enseigne. Alors, pendant que je vais être en train d'enseigner, des fois, vous allez dire, « Ouais, je comprends ce que tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ce n'est pas facile à démontrer. » Je suis d'accord, je ne suis pas dans un cours d'apologétique. Si j'avais voulu faire un cours d'apologétique, c'est ça qu'on ferait ce matin. On va quand même l'aborder un petit peu tout à l'heure, là, mais ça, c'est important. Alors, ce que je vous dis, c'est que Paul nous explique, entre autres l'athéisme, en nous disant que l'être humain a perverti cette idée de Dieu qu'il avait en lui-même pour le transformer en mensonge. Je ne fais pas la démonstration, je fais juste vous dire, c'est ça que les Écritures enseignent. C'est ce que je crois, c'est ce que je constate aussi. Puis effectivement, lorsque tu prends le temps de t'approcher de bien des gens qui sont athées, tu vas trouver des raisons. Tu vas trouver un sentiment religieux derrière ça avec de la colère. C'est intéressant, la semaine dernière, je lisais un article d'une étude qui a été faite en psycho aux États-Unis. C'est pas une recherche chrétienne, là, d'accord? Et puis, les chercheurs ont juste dénoté qu'ils retrouvaient un sentiment de colère envers Dieu beaucoup plus fort chez les athées que chez les croyants. Je laisse ça rentrer dans votre tête, là. Un sentiment de colère envers Dieu beaucoup plus fort chez les athées que chez les croyants. Comment tu fais pour être en colère contre quelque chose qui n'existe pas? D'accord? Je ne parle pas contre la religion, là. Je parle contre Dieu. Et donc, dans des entrevues avec des athées, avec des croyants, ils ont dénoté qu'il y avait beaucoup plus de colère qui était présente contre Dieu chez les athées que chez les croyants. Comment tu fais pour être en colère contre quelque chose qui n'existe pas? C'est un non-sens. Tu devrais être libre de cette colère-là. Mais si cette colère-là reste, c'est parce qu'il y a un issue qui est là quelque part. D'accord? Oui. Puis après ça, Stéphane.
Puis, elle avait déjà une certaine croyance envers Dieu. Puis, à un moment donné, il est arrivé un événement, puis elle s'est choquée, puis elle a décidé d'être athée.
c'est le cas de bien des gens. Il y a bien des gens qui s'éloignent de la foi parce qu'ils ont eu des déceptions, ont eu de la colère, ils ont eu des frustrations dans leur expérience avec Dieu. Puis là, ils disent non, ça ne se peut pas que Dieu existe.
Dans bien des cas, l'athéisme, c'est pas une conviction que Dieu n'existe pas autant que je rejette Dieu tel qu'il est conçu par les autres.
Oui, puis dans des cas plus modérés, ça va être mon expérience à Dieu m'amène à douter de l'existence de Dieu. Fait que c'est pas des athées fermes, c'est plutôt, écoute, si vraiment il existait, je pense pas que j'aurais vécu ce que j'ai vécu là. D'accord? Mais je veux dire, on peut vivre ça avec nos parents aussi, là. Un bon père, ça n'existe pas. Parce que si ça existait, j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu là avec mon père, mettons. Vous comprenez? Fait que c'est pour ça que je vous dis, il y a un facteur émotif qui est important dans bien des cas. Mais ça, c'était une parenthèse que je faisais pour citer une étude. C'est pas l'argument biblique nécessairement. Tu peux être athée sans chercher à contredire la foi des autres. Oui, absolument.
Et j'ai jamais ridiculisé ceux qui croyaient. Pour moi, Dieu n'existait tout simplement pas. Puis les gens qui avaient la foi, ben, je me disais qu'ils en avaient besoin. Mm-hmm. Mais pour moi, Dieu n'existait pas. Mm-hmm. Comment le déclic s'est fait pour que je recherche Dieu? Ben, je pense que c'est la preuve que c'est Dieu qui appelle. Amen. Parce que moi, je ne le cherchais pas.
Amen. Oui, puis je ne suis pas en train de dire que les athées, c'est tous des frustrés. D'accord? C'est pas ça que je suis en train de dire. Je pense qu'il y a des gens, que, pour l'instant, c'est là qu'ils sont. Là. Maintenant, l'analyse que Paul fait de ça, il dit, c'est notre nature pécheresse qui fait ça. On pervertit une vérité qui est là en nous. On croit à l'existence de Dieu. On transforme ça en mensonge. D'accord? Ça, c'est l'analyse que les Écritures font de ça. Romains 1, 25, « Eux qui ont changé la vérité en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Alors là, évidemment, on le voit manifesté dans plein de systèmes religieux où ce sont de petits dieux, des dieux à notre image. Vous avez juste à regarder toutes les divinités grecques, mais après ça, dans l'hindouisme actuellement, dans l'animisme, ce sont des petits dieux, des dieux à notre portée, des dieux à notre image. Et c'est vraiment ça qui est décrit ici. Le psalmiste ne dit-il pas, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Psaume 10, 3 et 4, « Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Donc, il est en train de faire une critique par rapport à l'existence de Dieu en disant, « S'il existait, ça ne se passerait pas comme ça. » Maintenant, Grudem fait une bonne observation lorsqu'il dit cette idée-là innée de Dieu qui est en chacun. Bien, lorsque Dieu nous attire à lui, et qu'on commence à grandir dans la foi, ce sentiment-là, cette conviction profonde de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu, ça va en grandissant. D'accord? Effectivement, on le constate dans notre propre vie. Dès notre conversion, l'Esprit de Dieu parle à notre esprit et nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Fait que les choses changent. Et donc, comme on comprend qu'il y a l'homme pécheur avant la conversion, puis il y a l'homme pécheur après la conversion, il y a quelque chose de fondamental qui change ici, là. Avant ma conversion, je n'avais pas l'Esprit de Dieu pour témoigner à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Évidemment, s'il témoigne à mon esprit que je suis un enfant de Dieu, ça me convainc davantage encore de l'existence de Dieu. Donc, lorsque vous parlez avec vos amis à l'école, quand vous parlez avec des amis, s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ce que Paul nous dit, c'est pas qu'ils vont être convaincus que Dieu existe, puis qu'ils vont avoir ce sentiment-là que Dieu est là, puis c'est là dans leur cœur. Non, il dit, c'est là, c'est perverti par la nature pécheresse. Et donc, lorsqu'on va annoncer l'Évangile à des gens, on va prendre cela en compte. Et c'était le cas, par exemple, de Paul lorsqu'il est allé à Athènes. Dans son approche, il a pris justement cet aspect-là où ils croyaient tous à l'existence de Dieu pour travailler. D'accord? Romains 8, 14 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Éphésiens 3, 13 à 17. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne. Donc Paul dit, je prie afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Paul ici parle d'autre chose que juste la conviction que Dieu existe, mais c'est là, là. Paul dit, vous pouvez même grandir dans ça. Plus vous allez grandir dans votre foi, plus vous allez découvrir la beauté de l'Évangile, plus l'Esprit va sanctifier vos cœurs, sanctifier vos vies, plus Christ va habiter dans vos cœurs. À ma conversion, Christ habite en moi parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Mais ça peut grandir, ça. Dans mon processus de transformation à l'image de Christ, au fur et à mesure que je grandis dans ma foi, cette conviction profonde, ce sentiment comme un fleuve tranquille, ce sentiment profond qui est là que Dieu est celui qui guide ma vie, Dieu a sa main sur moi, Dieu est constamment avec moi. Qui est différent des premières années où dès qu'il se passe quelque chose, c'est comme, attends un peu, là, c'est-tu vrai cette affaire-là? Je me suis fait embarquer, dans quoi je suis? Qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que je m'en vais? Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de prendre un temps avec Mme Martin, ceux qui connaissaient Mme Martin, qui vit énormément de solitude, énormément de solitude, je m'en vais toujours rencontrer deux personnes à chaque fois. C'est clair quand je parle avec elle. Je m'en vais rencontrer Dieu puis Mme Martin. Parce qu'elle est toujours avec son amour. Elle est toujours avec Dieu. Avec une théologie biblique très solide, là. Mais toujours dans la présence de Dieu, avec cette conviction profonde, son Père est là, il veille sur elle. Puis je veux dire, parfois dans des moments de souffrance, là, où j'allais la voir, puis plein de larmes, plein de souffrance, vous comprenez, c'est pas comme « Alléluia, tout va bien, j'ai Dieu dans ma vie, puis j'ai mon bud qui est avec moi toujours pour veiller sur moi. » C'était pas ça là, du tout. Là. Mais cette conscience profonde que son Père est là, qui veille sur elle, qu'elle est dans la présence de Dieu constamment. Alors, c'est de ça dont Paul nous parle ici. Que Christ habite en vous et que ça grandisse. Comme le relève Wayne Grudem, comme chrétiens, nous croyons et nous aimons sans avoir vu. 1 Pierre 1, 7 à 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors, d'une part, j'ai Paul qui me dit, tous les êtres humains ont cette idée innée de Dieu qui est en eux. Tous les êtres humains. Tous les êtres humains sont pécheurs. Et par conséquent, ont transformé cette vérité-là qui est en eux en mensonge. Puis d'autre part, il y a la conversion. Alors, cette idée, cette conviction profonde que Dieu existe, je l'ai avant ma conversion. À ma conversion, il y a quelque chose qui se passe. L'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Et cette conviction qui était là avant, je savais que Dieu était là, mais c'était sans avoir nécessairement le sentiment, la conviction que je suis un enfant de Dieu. Les choses changent avec la conversion et continuent à changer au fur et à mesure qu'on grandit dans notre foi. Et on doit réaliser en bout de ligne que pour nous, tout ceci est vrai et clair, hein? Mais on l'a pas vu. On l'a quand même pas vu.
Est-ce que ces gens-là sont tous condamnés?
Tous ceux qui ne vont pas se confier en Christ, oui. C'est clair. La question... OK, fait que la question de Diane, c'est une bonne question. Si tout le monde a ce sentiment, au départ, que Dieu existe, comment est-ce qu'on explique toutes les religions? Dieu nous a créés à son image. Et parce qu'il nous a créés à son image, je crois que c'est ça, on a cette conviction, ce sens inné, cette idée innée de l'existence de Dieu. Ce n'est pas parce que je crois que Dieu existe que ça fait de moi un enfant de Dieu. Je veux dire, l'argument simple des Écritures, c'est les démons aussi. Hein? C'est pas mal inné, eux autres, l'idée que Dieu existe. Ils en sont même toujours convaincus. Ça ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. D'accord? Ils sont devant sa face, ils le maudissent en pleine face. Ça ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. Fait que c'est pas parce que tous les hommes sur la terre ont cette idée innée de Dieu qu'ils ne sont pas pervertis et qu'ils ne vont pas pervertir ça. Et Paul explique dans Romains 1, il dit justement, partant de ça, ils ont rejeté l'idée de se soumettre au Créateur pour se créer des dieux. Ils se sont créés des dieux à leur échelle. Puis je veux dire, on le voit là avec Israël. Israël, je veux dire, Moïse est absent un peu trop longtemps, puis ils disent, ça nous en prend un qui est un peu plus handy, là. Tu sais, il faut qu'on puisse mettre une laisse après notre Dieu. On va dire, mets-en par ici, mets-en. OK, attaque les méchants, attaque. Donc, ils se font un Dieu à portée de main. C'était un veau, je m'excuse. Non, c'est le contraire, c'est avec une petite paille, hein. Avance, c'est ça. Fonce sur les méchants. Mais vous comprenez l'idée? Donc, tous les êtres humains sur la terre ont cette idée de Dieu. Et perverti par le péché, on part de ça, puis on se crée un Dieu à notre image. Et ça donne ce qu'on voit un peu partout sur la terre. Et dans bien des religions, c'est très, très évident que ce sont des... Comment je vous dirais ça? C'est des serviteurs, leur Dieu. Là. Tu sais, il y a des recettes pour que ces dieux-là te fassent du bien. Ce n'est pas des êtres à qui tu dois toute soumission, c'est des êtres avec qui tu peux contester, tu peux aller ailleurs, tu peux aller chercher ailleurs... Alors, je reviens juste pour nous resituer. Comment savons-nous que Dieu existe? Premièrement, il y a cette idée innée de Dieu qui est dans le cœur de chaque homme. Deuxièmement, le témoignage que nous donnent les Saintes Écritures et la nature à l'égard de l'existence de Dieu. Donc, la nature et les Saintes Écritures témoignent de l'existence de Dieu. Ainsi, nous savons que Dieu existe. B, le témoignage de l'Écriture sainte. À cette connaissance innée s'ajoute aussi évidemment le témoignage de la parole de Dieu et de la nature elle-même. La Bible nous raconte le récit de la relation entre Dieu et les hommes. Ainsi, elle témoigne constamment de l'existence de Dieu. Alors, si je commence par la Bible, la Bible présuppose que Dieu existe. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux dire, pour faire la preuve que la Bible témoigne de l'existence de Dieu, ce livre-là présuppose toujours que Dieu existe. Part jamais de la prémisse que peut-être que Dieu n'existe pas. En fait, dans Genèse 1:1, on commence avec Dieu. D'accord? Alors, les Écritures constamment racontent l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes. Les Écritures témoignent de l'existence de Dieu. On sait que Dieu existe à cause des Saintes Écritures. Du premier verset de la Bible jusqu'au dernier, ce livre parle et prétend être inspiré de Dieu. Mais la nature aussi rend témoignage de l'existence de Dieu. Alors, quelques versets, Romains 1:20. En effet, les perfections invisibles de Dieu... Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. La nature aussi nous parle de Dieu. Et je pense que c'était Sylvie qui partageait ça. Hein? Dans son processus de conversion, Dieu, parce que lorsque quelqu'un commence à chercher Dieu, comme on va le voir, c'est l'Esprit qui le fait, Alors, l'Esprit de Dieu s'est servi de la nature pour interpeller Sylvie, pour lui dire, attends un petit peu, là, il y a plus que ça. Là. Ta vie doit trouver un sens sous Dieu, parce qu'il y a un Créateur. Et donc, toute la nature, les perfections qu'on trouve dans la nature nous parlent de Dieu. Puisque tout a été créé par Dieu, nous pouvons dire que tout ce qui existe porte l'empreinte de Dieu, je m'excuse, et témoigne de son existence. Fait que dans un sens, on pourrait dire que tout ce qui existe nous parle de Dieu. De la même manière que si je vous donne un iPad, vous allez comprendre que ça ne vous parle pas de Yannick, peut-être de Steve Jobs, mais pas Yannick. Yannick n'est pas capable de faire ça, mais Steve Jobs, peut-être que oui. T'sais. Donc, ça porte l'empreinte de quelqu'un, une équipe, une entreprise qui est derrière. Pas juste parce qu'il y a une pomme dessus, là. D'accord? Puis si je vous sors une montre, ben ça porte l'empreinte de celui qui l'a designée. Alors, dans un certain sens, je veux dire, moi, mon corps, ma main, mon chien, les fleurs, tout ça, dans un certain sens, on peut dire toutes ces choses-là portent l'empreinte de Dieu. Ce qui fait qu'il y a tellement de scientifiques chrétiens qui trouvent un acte d'adoration à leur recherche même. D'accord? Parce qu'ils sont émerveillés par la création, par la beauté, par la complexité de la création. Donc, dans un sens, tout ce que Dieu a créé témoigne de son existence. Toutefois, c'est l'homme lui-même créé à l'image de Dieu qui représente le plus clair témoignage de l'existence de Dieu. Je suis au bas de la page 4. Toutefois, c'est l'homme lui-même créé à l'image de Dieu qui représente le plus clair témoignage de l'existence de Dieu. Chaque fois que nous rencontrons un être humain, nous devrions nous rendre compte qu'une créature semblable ne peut avoir été créée que par un Créateur tout-puissant. Alors, si on parle de la nature qui nous parle de Dieu, le plus beau témoignage sur la terre dans la nature de l'existence de Dieu, c'est l'homme, c'est l'être humain. Parce qu'on a été créé à son image. Et donc, lorsqu'on parle avec l'être humain, lorsqu'on entre en communion avec un être humain, on réalise qu'on n'est pas en train de parler juste avec un accident ou juste avec une machine, juste avec quelque chose qui vient de cause à effet. Puis, oups, on est arrivé là. Non, il y a plus que ça, il y a plus de grandeur que ça. Il y a quelque chose il y a une empreinte divine en l'homme. Psaume 19, 2 et 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à un autre. Donc, toute la création témoigne de l'existence de Dieu. Page 5. OK, tout à l'heure, je vous parlais un petit peu d'apologétique. À quelque part au 13e siècle, Saint Thomas d'Aquin est parti sur une piste, OK? Puis ça nous a amené à développer des choses utiles, mais il y avait aussi un raisonnement faux derrière ça. Saint Thomas d'Aquin a émis l'hypothèse que lorsque l'homme a péché, notre volonté a été affectée, mais pas notre intelligence. D'accord? Pour vous, si vous étudiez la Bible dans une église qui enseigne consciencieusement les Écritures, puis ça fait un bout de temps que vous êtes dans une église comme ça, vous vous dites, tout l'être humain entier a été affecté par le péché. D'accord? En théologie, on appelle ça la dépravation totale, total depravity. Maintenant, ça c'est clair. Si je vous dis, est-ce que tu penses que tes sentiments ont été affectés par le péché, peuvent être faussés? Peuvent être trompés? Est-ce que tes pensées peuvent être trompées? Est-ce que ton jugement peut être trompé par ta nature pécheresse? Vous prenez ça pour acquis, là, mais c'est parce que les Écritures l'enseignent et on le confirme dans nos enseignements. D'accord? Au 13e siècle, en 1200 quelques, Saint Thomas d'Aquin, lui, a émis l'hypothèse que notre volonté a été affectée, donc on ne veut pas faire le bien, on préfère faire le mal, mais notre intelligence n'a pas été affectée. Et c'est seulement à la Réforme, avec Martin Luther, avec Calvin, avec Zwingli, avec tous ces personnages-là, lorsqu'on est arrivé au 16e siècle, c'est seulement à cette époque-là qu'ils ont dit « Non, non, attends un petit peu, on fait complètement fausse route, là. Tout l'être humain a été affecté par le péché. » Oui, c'est ça. Mais saint Thomas d'Aquin lui dirait, ben c'est ça. C'est, dans le fond, sa volonté n'est pas vraie. Il ne veut pas vraiment faire ça. Mais je suis d'accord, c'est fondamentalement non biblique. C'est juste pour dire qu'il s'agit qu'on enseigne quelque chose, puis on peut errer longtemps comme ça. Et il faut vraiment retourner aux Écritures. C'est parce que Martin Luther étudiait les Écritures, étudiait d'autres pères de l'Église, mais étudiait les Écritures qui dit non, ça ne marche pas cette affaire-là, ça ne marche pas. Maintenant, là, je fais une parenthèse, c'est juste pour vous dire que ça, l'hypothèse de saint Thomas d'Aquin, ça a amené le développement de la théologie naturelle. Et donc, la théologie naturelle, c'est de dire, en observant la nature avec notre intelligence, on peut comprendre plein de choses sur Dieu, et on peut bâtir toute une théologie juste sur Dieu. Je sais que je vais en perdre quelques-uns, là, mais vous allez comprendre d'où ça vient, ce raisonnement-là, d'essayer d'avoir l'approche qu'on a ici au haut de la page 5, qui sont des arguments logiques. C'est pas inutile, c'est utile, mais ça peut pas convaincre quelqu'un puis le conduire à Christ. D'accord? Mais certains philosophes, penseurs chrétiens et même des philosophes non chrétiens ont développé des arguments pour démontrer que logiquement, tu peux pas faire vraiment autrement que conclure que Dieu existe. Si tu veux être logique, vraiment logique, Dieu existe. D'accord? Ce sont des arguments qu'on utilise en apologétique. C'est pas, tu utilises pas juste ça. Il faut que tu utilises la Bible, il faut que tu utilises l'Évangile. C'est à travers l'Évangile et les Écritures que les gens vont se convertir. Mais des fois, on va s'en servir pour discuter. Il y en a que vous allez reconnaître. L'argument cosmologique. Cet argument affirme que toute chose dans l'univers a une cause et que nous ne pouvons expliquer la cause première, je m'excuse, de toute chose que par l'existence de Dieu. Donc, si tout a une cause, la cause première, la cause avant toute chose, il faut que ce soit Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui soit à l'origine absolument. Lui-même étant la cause première de toute chose à l'extérieur de lui-même. Dieu existe, puis il commence à créer. Les Écritures disent ça dans Genèse, c'est pas quelque chose de faux. Puis vous avez tous posé la question à un ami lorsque vous étiez en train de débattre avec, puis dire, ouais, mais d'où ça vient, 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 d'où ça vient. Dieu. L'autre personne peut être convaincue ou ouvert ou non à cet argument-là. C'est ce qu'on appelle l'argument cosmologique. L'argument téléologique est proche de celui-là. Ça parle de l'ordre. En observant l'univers, en observant même scientifiquement l'univers, toutes choses étant parfaitement ordonnées comme elles le sont, nous disent qu'il y a quelqu'un qui a conçu cette affaire-là. Alors, le premier dit qu'il y a quelqu'un à l'origine. Avant ça, avant ça, avant ça, avant ça, il y avait quelqu'un. Le deuxième nous dit, oh, mais regarde comme c'est beau. Il y a quelqu'un qui a pensé à tout ça. L'être humain, le corps humain, l'équilibre au niveau planétaire pour que la Terre soit là. D'accord? C'est des arguments que vous avez entendus, que vous avez probablement déjà utilisés avec des amis. C'est ce qu'on appelle l'argument téléologique. C'est pas inutile, c'est utile de le faire. D'accord? Des fois, c'est un point de départ dans une conversation. L'argument ontologique, cet argument est un petit peu plus compliqué celui-là. Cet argument veut que l'idée même de Dieu explique son existence. Là, on est vraiment philo. Je vais finir de lire la phrase, puis vous me direz s'il y en a deux, trois qui me suivent encore. Ainsi, puisque Dieu est l'être infiniment grand qui surpasse toute chose, il ne saurait faire autrement qu'exister, puisque ce qui existe est plus grand que ce qui n'existe pas. Dieu doit exister parce qu'il n'y a rien de plus grand que ça. S'il n'existait pas, ce ne serait pas Dieu. Puis c'est un drôle d'argument, là. C'est vraiment un argument circulaire, d'accord? Mais certains l'ont présenté, puis pendant longtemps, ça a été un argument qui portait. L'argument moral, plus simple à utiliser pour nous, l'argument moral démontre que la moralité, la notion et la conscience du bien et du mal et le sens de la justice des hommes indiquent qu'un Dieu responsable du jugement moral des hommes existe. On regarde les choses, on a ce sens inné, on a cette idée innée en nous que ça c'est mal. C'est clair que c'est mal. On ne doit pas être juste des bêtes. Il doit y avoir quelque chose de plus grand que ça. Si le bien et le mal existent, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit à l'extérieur de juste un accident. Oh, l'évolution. Parce que si on est vraiment uniquement le fruit de l'évolution, il faut que tu développes une notion du bien et du mal. Par exemple, si moi j'étais évolutionniste, je ne croyais pas dans l'existence de Dieu, puis je voudrais définir c'est quoi le bien et le mal, mais je pourrais dire, on peut tous s'entendre que ce qui est mal, c'est ce qui nuit au bien-être de l'humanité. Fait que toute la gang ensemble, on pense qu'on est plus important que le reste. On est plus important, admettons, qu'un chat. Fait qu'on va favoriser ce qui est bon pour nous. Par exemple, avec l'environnement, on est en train de développer une notion du bien et du mal. C'est une nécessité. C'est par nécessité qu'on dit que c'est bien ou que c'est mal. Par nécessité, on va dire que c'est mal de détruire la terre. On a besoin de la terre pour être là. Donc, c'est une idée du bien et du mal qui repose sur la nécessité. Combien de personnes suivent ce que je viens de dire là? Juste pour me donner une idée. C'est beau? OK. Merci. C'est bon. Non, mais je veux pas être méprisant du tout, là. C'est juste que des fois, ma femme me regarde puis elle dit, on peut-tu parler d'autre chose?
C'est pas long, le commentaire que je veux faire. C'est que c'est variable, hein? On voit que c'est variable, même ben, aujourd'hui encore plus, que le bien et le mal, et selon quasiment rendu à la compréhension de chacun ou à la définition de chacun.
Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Ça devient, je m'en viens, Suzanne, ça devient... ça repose juste sur le pragmatisme. D'accord? Laissez-moi dire quelque chose de gros. Dans ce sens-là, ce que l'Allemagne a fait en envahissant le reste des pays autour, je veux dire, est-ce que je peux vraiment dire que c'est mal? Parce qu'il était mal pris économiquement, puis c'était pas un mauvais move économique. Puis si j'avais été à leur place, puis Dieu n'existait pas, puis que ce qui est important, c'est que mes enfants que j'ai soient heureux, puis qu'on est dans une récession économique profonde en Allemagne, pourquoi pas aller prendre possession de quelques pays autour? De toute façon, c'est des vers, c'est pas mes enfants. Ils sont pas de ma race, ils méritent pas de vivre. Je peux aller les éliminer. Si Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas.
C'est que j'ai vu un reportage, John Dahmer, là, tu sais, le meurtrier en série.
Oui.
Il s'est converti, il s'est fait baptiser, puis 6 mois après, il est décédé.
Okay.
Là, le pasteur, il parlait à la télévision que toute sa congrégation, presque, avait quitté l'église, puis ça. Puis, en tout cas, il parlait justement de... du bien puis du mal, puis de la conscience, tout ça. Mais moi, personnellement, ça m'a parlé dans le sens... j'étais troublée, moi, avec ça. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui manque de conscience, justement? Tu sais, comment qu'il peut saisir qui fait le bien ou qui fait le mal? Mais...
Sans l'Esprit de Dieu, là, on le fait pas. OK. OK. OK, c'est excellent. Par nous-mêmes, l'être humain, parce qu'on est pécheur, encore je reviens sur ce que j'ai dit tantôt, total depravity, parce qu'on est totalement, entièrement dépravé, l'être humain ne va pas trouver par lui-même comment définir le bien et le mal. Il faut que Dieu intervienne dans sa vie. Mais si Dieu n'existe pas, le bien et le mal, on va le définir selon ce qui est pragmatique, selon ce qui est pratique. C'est ce qui fait qu'actuellement, on a des avortements. D'accord? C'est un argument pragmatique. Tu as deux êtres vivants devant toi. Il y en a un qui est plus gros puis qui est plus fort, qui est capable de crier puis de dire « c'est ma vie ». L'autre n'est pas capable. Fait que soyons pragmatiques. Je veux dire, la personne qui va falloir que je continue à croiser puis qui va me dire « tu vois-tu là, que je suis prêt avec un enfant à cause de toi? Je n'ai pas pu me faire avorter là, puis ça a tout bouleversé ma vie, cette affaire-là. » Mais c'est la femme qui est devant moi, avec qui je vais devoir argumenter. Puis elle a une plus grande voix que le fœtus qui est en elle. Fait qu'on l'élimine. C'est un argument pragmatique. C'est juste pragmatique. On définit le bien et le mal sur une base pragmatique. Qu'est-ce qui est profitable pour nous maintenant? Puis on révisera ça plus tard.
Quand on lit dans la version sommaire... Deutéronome, la loi et tout ça, ils traduisent ce que Dieu considère mal. Et je trouve que dans notre contexte social, ça remet un petit peu des pendules à l'heure parce que pour beaucoup de gens, effectivement, le bien, le mal, tu sais, bon, si ça me fait pas de mal, si ça me fait du bien, ça peut pas être mal, ou etc. Donc la notion est très élastique. Mais la question, c'est pas de savoir ce que moi je considère bien ou mal, c'est qu'est-ce que Dieu considère bien ou mal.
Oui. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, d'accord? De ce que ça peut faire dans une société si tu as ces valeurs-là basées sur la parole de Dieu plutôt que de manière pragmatique. Ben, on est dans un navire, il est en train de couler, et puis on ne sait pas si on va avoir du secours. Si je veux être bêtement pragmatique, les personnes qu'on va sauver, parce qu'il va falloir en jeter d'autres par-dessus bord, ce sont les plus forts, les plus sains, puis ceux qui ont le plus de chances de vivre. On y va par probabilité, puis par probabilité, je suis désolé Gilles, je t'aime beaucoup, mais je ne t'embarque pas. Puis les dames non plus, désolé, vous n'êtes pas faites aussi fortes que nous. Fait que tout le monde dehors, on ramasse les plus forts, ceux qui sont en santé, puis on essaie de sauver ce qu'on peut sauver. Soyons pragmatiques. Maintenant, l'Occident a été profondément influencé par le christianisme, par les religions judéo-chrétiennes, hein, par l'Ancien Testament aussi, pendant des siècles. Et donc, ce que ça donne, c'est on est en train de couler, on sauve les femmes et les enfants premièrement, à la grâce de Dieu. Ça vient d'où? Un leader, c'est un serviteur. On est là pour se sacrifier, pour sauver les autres. D'accord? C'est pas pragmatique comme raisonnement, là. À la limite, c'est pas logique si je vais juste sur les probabilités de survie. Vous comprenez? Mais le leader, c'est celui qui doit mourir pour sauver les autres. Ah non, je pense pas. Moi, si je crois pas en Dieu, le leader, c'est le plus fort qui bouffe les autres avant de mourir. Non, c'est vraiment pas évolutionniste comme idée. Le plus fort devrait manger les autres avant de mourir. Ça serait le bien et le mal dans une perspective évolutionniste. Comprenez? Juste pour revenir à mon cours, l'argument moral dit, je peux, puis celui-là, je vous dirais que c'en est un qui est utile dans des discussions. Tout ce que je vous ai dit là, je veux dire, je pense que vous allez être d'accord avec moi que 60%, juste mon illustration que j'ai donnée, 60-70% des gens non chrétiens vont être scandalisés par les mêmes choses que vous. D'accord? Ils vont dire, ben Yannick, comment? Arrête, là. T'as pas besoin d'être chrétien pour dire, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis là, là. Ah, c'est ça. Ça, c'est l'argument moral. Tu as dans ton cœur une loi, une conscience que Dieu a placée. Ça repose pas sur la logique puis sur une pensée uniquement évolutionniste. Il y a quelque chose qui va au-delà de l'évolution qui est placé en toi. C'est Dieu qui l'a placé là. Ce sens de la justice qui est en toi, c'est Dieu qui l'a placé là. Ça ne vient pas du fruit de l'évolution. Les hamsters mangent leur bébé quand ils ont faim. Ils n'ont pas cette loi-là en eux. Oui, brièvement.
On peut penser quelque chose, mais quand on est placé dans la situation, si notre jugement n'est pas déformé, je ne sais pas, moi, si au moment où ta femme est enceinte, on te dit qu'il faut choisir entre ta femme et le bébé, tu fais quoi, là, tu sais?
Bien, OK. Tout à l'heure, la prédication que je vais faire tout à l'heure, ça ne va pas être sur l'argument moral. Ça va être sur la parole de Dieu. Parce qu'avec l'argument moral, tu ne réformes pas tout un être humain. D'accord? Parce que justement, on est totalement dépravé. Et notre sens moral fluctue selon nos intérêts puis selon les situations. Ah ben là, je ne rentrerai pas dans une question éthique. Mais c'est pour ça qu'on a la parole de Dieu. Je reviens sur ta première question. Le sens moral de l'être humain n'est pas suffisant pour déterminer le bien et le mal. On a besoin de la révélation de Dieu. On a besoin de sa parole. Voyez-vous, ces arguments-là, les quatre arguments que je vous ai donnés, ce sont des arguments valables. Mais est-ce que c'est des arguments qui vont convaincre quelqu'un dont le cœur n'a pas été travaillé par l'Esprit de Dieu? Non. Ça, c'est vraiment important. Quand on fait de l'évangélisation, quand on veut parler de quand on veut que quelqu'un s'ouvre à l'Évangile, quand on veut que quelqu'un vienne à Dieu, on travaille avec la parole de Dieu. Et on travaille avec la parole de Dieu dans une perspective d'aller vers l'Évangile. Parce que c'est l'Évangile qui est une puissance de Dieu. D'accord? On va se servir de ces arguments-là dans une discussion. C'est intéressant de s'en servir. Mais ce n'est pas une fin en soi. Oui, Jacques.
Est-ce que à quel niveau peut-on, disons, situer le cas de Moïse qui fait le pacte avec les enfants d'Israël, de l'Égypte? Donc, c'est déjà un vrai. C'est des interventions miraculeuses. Donc, on a franchi la mer Rouge et puis en plein désert, donc tout le peuple s'est rébellé contre Moïse. En fait, on pourrait dire à l'évidence, moralement, et puis il y a assez d'évidence pour dire que effectivement Dieu est là. Pourquoi il ne se met pas à penser à Dieu? Donc, il s'est déchaîné contre Moïse, à point que Moïse, à maintes reprises, s'est obligé de retourner vers Dieu pour dire « Ah, moi, je ne peux rien faire, c'est à toi maintenant d'intervenir. » Mais une fois, c'est Dieu directement qui se voit obligé de parler afin de remonter le moral, je dirais, des enfants d'Israël. À quel niveau, quel type d'argument? Parce que ça me fait comprendre, ça se peut bien qu'on est avec un groupe qui a un certain niveau bien, bien motivé, parce que il voit ce que Dieu a fait, et c'est bien, mais tout de suite, donc on s'est senti seul. Donc, en fait, à quel argument? Est-ce que c'est obligatoirement de retourner vers Dieu pour redresser la situation? Donc, ça, c'est...
Mais en fait, merci Jean. En fait, ça va dans le sens de la conclusion où j'arrivais sur cette question-là, c'est que lorsque l'homme marche avec Dieu, c'est parce que Dieu a fait une œuvre dans son cœur. Et quelques siècles plus tard, sur l'histoire du peuple d'Israël, Dieu va conclure, un jour viendra où je leur donnerai un cœur nouveau. Mon esprit habitera en eux, ma loi sera dans leur cœur. Et donc, Israël n'avait pas reçu l'Esprit Saint individuellement. Cette idée de conversion, de nouvelle naissance, comme nous, on le comprend à la lumière du Nouveau Testament, ça se produit juste avec la venue de Jésus-Christ. Maintenant, on va regarder à Israël pour se dire, oui, il faut toujours revenir à la parole. C'est la parole qui nous ramène à Dieu. Ils avaient tous vu l'existence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez saisi la question de Jacques, mais ils avaient toutes les raisons de croire dans l'existence de Dieu puis honorer Dieu. Je veux dire, plus que nous, là, on n'est pas dans les arguments ontologiques puis les arguments cosmologiques. On est dans le miracle. Tu sais, c'est comme, oh, Dieu est là, c'est vrai. Puis pourtant, tout de suite après, ils se détournent. C'est la nature de l'homme. Moi, j'aurais eu le goût de me servir de cette question-là avec saint Thomas d'Aquin. Puis de dire, regarde, c'est parce que là, intellectuellement, avec l'intelligence, ils savent tout, là, comment ça se fait qu'ils sont encore là-bas. T'sais. Lui m'aurait dit, c'est parce qu'ils n'ont pas la volonté de faire le bien. Pas sûr. Totalement dépravé. Et donc, ça prend une intervention de l'Esprit de Dieu pour venir faire un bouleversement, pour qu'on persévère avec lui et qu'on ne s'appuie pas juste sur ce qu'on a vu avec nos yeux, mais l'œuvre que Christ fait dans nos cœurs. Dieu seul peut vaincre notre péché et nous convaincre de son existence. Si Dieu ne nous attire et nous convainc lui-même de son existence, nous ne le connaîtrons jamais par nous-mêmes. D'accord? C'est fondamental même dans notre évangélisation, ça a des implications pratiques. 2 Corinthiens 4, 3 et 4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Non seulement l'homme est dépravé, mais le prince de ce siècle, le prince de ce monde, le diable, lui-même travaille à les garder dans cette obscurité-là. D'accord? C'est seulement Dieu qui va faire la transformation. Fait qu'on sert de tous ces arguments-là, mais il faut comprendre que lorsque je me retrouve avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas été transformé par l'Évangile, je veux dire, j'ai beau, moi, lui dire « Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, je le sais. » Ça prend une œuvre de l'Esprit. Et honnêtement, si vous avez vu des conversions, on le sait quand l'Esprit est à l'œuvre. Puis ce qui est le plus beau, c'est... Ce qui est le plus beau, je vous dirais, ce n'est pas la conversion de la personne que vous croisez, vous lui présentez l'Évangile, bang. C'est la conversion de la personne qui, un peu comme Diane disait tantôt, était athée. Puis, à un certain moment donné, Dieu commence à faire un bouleversement dans le cœur. La perspective change complètement. Ce qui était quand même le cas de Sylvie, je pense. Puis, c'est superbe à voir, là. C'est superbe. Je vous dirais, c'est ce qu'il y a de plus tangible pour toucher Dieu actuellement, là. Quand tu assistes à ça. Quand tu assistes à ça dans ton propre cœur. Quand Dieu fait ces changements-là en profondeur aussi dans ton propre cœur. J'avance. Alors, juste vous mentionner, OK, je vais faire ça chaque semaine. Vous avez en bas de la page 5 deux questions pratiques. Moi, j'aimerais ça vous inviter à prendre le temps, juste de prendre la question, vous asseoir avec un bon café, une feuille de papier, puis essayer de plonger un peu dans ça. Lorsque les séraphins qui entourent le trône de Dieu proclament « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées », toute la terre est pleine de sa gloire. Pensez-vous qu'il voit la terre selon une perspective quelque peu différente de la nôtre? comment pouvons-nous commencer à voir le monde selon cette perspective? Eux, ils sont convaincus que Dieu existe, ils sont devant sa face. Qu'est-ce que ça change et comment est-ce que nous, on peut voir le monde comme ça avec une conviction semblable? Deuxième question, quand votre conscience, celle-là est pratique, d'accord? Quand votre conscience de l'existence de Dieu est-elle la plus forte? Il y a des journées où on est plus convaincu, il y a des journées où on est moins convaincu, en tout cas si vous êtes fait comme moi. D'accord? Puis je m'attends pas vraiment à ce que ça change jusqu'à la fin. J'ai hâte de le voir. J'avance par la foi. Quand votre conscience de l'existence de Dieu était la plus forte, la plus faible, et pourquoi? Laquelle de ces situations est la plus proche de celle que vous connaîtrez dans les cieux? C'est assez simple comme question. Dans laquelle de ces situations votre jugement est-il le plus fiable? Puis réfléchissez à ça pour apprendre à étudier votre cœur et c'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre des grandes décisions quand vous n'êtes pas tout à fait convaincu de l'existence de Dieu. Et dans chaque leçon, je vais vous donner aussi le passage à retenir. Un passage biblique. Alors, s'il y en a qui ont à cœur de relever un beau défi, ce serait les versets à mémoriser ou ceux à méditer pendant la semaine. La connaissabilité de Dieu, c'est pas français, mais ils ont juste voulu respecter Grudem qui dit « the knowability of God ». Pouvons-nous vraiment connaître Dieu? Que pouvons-nous connaître de lui? Alors évidemment, si on veut connaître Dieu, il faut qu'il se révèle à nous. Contrairement à ce que saint Thomas d'Aquin pensait, on ne peut pas connaître Dieu seulement par nous-mêmes et avec notre intelligence. Matthieu 11, 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Pour que quelqu'un connaisse Dieu, il faut que Dieu ait pris l'initiative de se faire connaître à lui. C'est Dieu qui devait prendre l'initiative envers tous les hommes, envers l'humanité. Et la Bible, c'est le résultat de cette initiative-là, où Dieu veut se faire connaître à nous. Nous ne pourrons jamais comprendre pleinement Dieu. Ça, c'est important. Là. Regardez le point B et le point C. Je ne suis pas en contradiction ici. Point B, il dit, nous ne pourrons jamais comprendre pleinement Dieu. Le point C, il dit, nous pouvons cependant vraiment connaître Dieu. Alors, d'une part, on ne pourra jamais comprendre pleinement Dieu parce qu'on est en train de parler d'un être fini, limité, qui veut saisir l'être infini, illimité. Dans un sens, pour que je comprenne parfaitement Dieu, il faudrait que je sois Dieu. Et c'est pour ça que les Écritures nous disent que l'Esprit de Dieu sonde Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, il peut sonder Dieu. Moi, je ne pourrai jamais saisir pleinement et connaître pleinement, parfaitement Dieu. Et ce n'est pas une contradiction avec le passage, j'ai oublié de le noter ici, qui dit qu'un jour on va connaître comme on a été connu. Je ne pense pas que les Écritures sont en train de nous dire ici qu'un jour on va avoir autant de connaissances que Dieu, qu'on va être aussi grand que Dieu. Non, je ne pense pas que c'est ça. Ça veut dire que notre connaissance, probablement que c'est ça que l'auteur veut nous dire, notre connaissance va être parfaite dans le sens qu'elle va être entièrement juste. Elle ne sera plus affectée par le péché. D'accord? On va pouvoir connaître Dieu parfaitement dans le sens qu'on va le connaître sans une nature dépravée, sans le péché qui vient affecter notre jugement, sans le péché qui vient affecter ce que nous sommes, comment nous pensons, ce que nous ressentons. Tu veux dire qu'on va connaître autant de choses sur Dieu que Dieu en connaît sur lui-même. Non, il faut que tu le fasses dans le sens que le christianisme ne prétend pas qu'un jour on va devenir Dieu. C'est ça, mais posséder autant de connaissances que Dieu en possède, ce serait être Dieu. D'accord? Mais on pourra le regarder ensemble, si tu veux. Alors le B, nous ne pourrons jamais comprendre pleinement Dieu. Dieu est infini, ça je l'ai mentionné. Le psaume, ok, regardez, puis vous pourrez aller lire les psaumes d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais trouvé intéressant. Psaume 145, 3. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. quand on lit dans les psaumes, ça revient à plusieurs reprises, cette idée que Dieu est infini et que nous, on ne peut pas le sonder, on ne peut pas atteindre toute sa perfection. À chaque fois, l'auteur n'est pas en train de dire, parce que nous sommes pécheurs, on ne peut pas faire ça. Non, il est en train d'adorer Dieu dans sa grandeur et dans sa différence de nous. Donc, à chaque fois, il n'est pas en train de dire, parce qu'on est pécheur, parce qu'on est ici sur la terre, parce qu'Adam a péché, on ne peut pas comprendre parfaitement Dieu. Non, non, il est en train de dire, Dieu est Dieu, puis nous, on est nous, là. Puis ça, c'est comme ça. Puis c'est extraordinaire comme ça. Donc, on ne pourra jamais saisir parfaitement Dieu. À la lumière de ces versets, nous pouvons comprendre que nous ne saisirons jamais parfaitement Dieu et nous ne comprendrons jamais parfaitement quoi que ce soit sur Dieu, dans le sens qu'on ne comprendra jamais parfaitement tout son amour. C'est, nous pouvons cependant vraiment connaître Dieu. Et ça, c'est important, d'accord? Parce que certains pourraient être tentés de dire, là, puis il va falloir que je termine sur ça, certains pourraient être tentés de dire, puisque Dieu est Dieu, on ne peut jamais vraiment connaître Dieu non plus. Et ça, c'est faux. Laissez-moi donner une illustration à très petite échelle. Je connais vraiment mon épouse, je connais vraiment mes amis, mais je ne les comprends pas parfaitement et je ne les connais pas parfaitement. Mais je peux dire que je la connais vraiment et que je les connais vraiment. D'accord? Alors, ce n'est pas parce que Dieu est Dieu que nous ne pouvons pas le connaître intimement pour de vrai et avoir une relation véritable où nous connaissons Dieu. Et là, les témoignages bibliques sont très, très éloquents. 1 Jean 4:8, juste par exemple. C'est pas parce que je saisis entièrement qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu que je peux pas savoir que Dieu est amour. 1 Jean 4:8 nous dit « Dieu est amour ». Je sais que Dieu est amour. La preuve, je vois Christ, je vois son sacrifice. Je sais que Dieu est amour. Est-ce que je comprends tout ce que ça représente, l'amour de Dieu? Non. Donc, je peux quand même connaître sur Dieu et connaître Dieu. Jérémie 9:23-24, c'est vraiment les versets à mémoriser, si vous voulez mémoriser là-dessus. Quel verset extraordinaire. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Donc, si j'aime glorifier de quelque chose, c'est de connaître Dieu. C'est possible de connaître Dieu. Jean 17:3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous pouvons avoir une vraie relation avec Dieu et vraiment connaître Dieu, même si nous ne le connaîtrons jamais parfaitement, entièrement dans tout ce qu'il est. Question pratique, comment pouvons-nous savoir avec certitude que lorsque nous arriverons au ciel, restez avec moi sur ces deux questions-là, s'il vous plaît. Comment pouvons-nous savoir avec certitude que lorsque nous arriverons au ciel, Dieu ne nous dira pas que la plupart des choses que nous avons apprises sur lui ici-bas étaient erronées? Ça va dans le sens des gens qui vont dire, OK, mais Dieu, c'est l'autre, puis on ne peut pas vraiment le connaître. Comment est-ce que je peux être sûr que ce que je connais de Dieu est vrai et certain? D'accord? Je vous laisse réfléchir à ça. 2. Qualifieriez-vous votre relation avec Dieu de personnelle? Est-ce que vous avez une relation personnelle avec lui? En quoi est-elle semblable aux relations que vous entretenez avec d'autres personnes? Et en quoi est-elle différente? Qu'est-ce qui pourrait améliorer votre relation avec Dieu? C'est des sujets qui peuvent sembler simples, mais si vous pouvez juste méditer sur l'idée suivante. Moi, je suis un pécheur. J'ai de la misère à me comprendre moi-même. D'accord? J'ai de la misère à comprendre la vie. J'ai de la misère à comprendre mes réactions. J'ai de la misère à comprendre souvent mon épouse. Puis là, mes enfants arrivent à l'adolescence, ça va se compliquer. Il va y en avoir encore d'autres que je ne comprendrai pas. D'accord? Avec Dieu. Lui n'est pas pécheur. Il n'est pas humain comme moi, dans le sens qu'il est affecté par le péché puis tout ça, même si Christ est humain. Mais c'est Dieu. C'est ses motifs, les motifs derrière ses actions, c'est pas les mêmes que moi. Moi, il y a toujours un intérêt personnel, quelque chose de tordu souvent dans mes motifs. Il est autre. Et moi, j'ai le privilège de pouvoir vraiment connaître ce Dieu-là. Parce que lui a pris l'initiative de venir se révéler à moi et je peux entrer en relation avec lui. C'est un privilège absolument extraordinaire qu'on a, là. et qu'on prend à la légère. On vient ici, on écoute une prédication, puis tu sais, on parle à Dieu dans des moments où on a besoin de lui, peut-être pendant la semaine. Mais vous avez le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu en vous et de pouvoir entrer en relation avec lui pour le connaître vraiment. C'est vraiment une grâce extraordinaire. Il y a un objet d'adoration, là, juste là-dedans, un sujet d'adoration. Incroyable. Je méditais là-dessus, puis je disais, waouh, Seigneur. Waouh. Et je vais passer l'éternité à le faire. Merci. La semaine prochaine, on voit ensemble les attributs de Dieu. Ça fait plaisir.